France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Personne ne pouvait s'imaginer ce qui les attendait dans les camps de concentration. Même au camp de Royallieu à Compiègne, véritable plaque tournante de la déportation, de la France vers les camps, les prisonniers et futurs déportés étaient loin de se représenter la réalité des camps. Si la violence avait déjà commencé dans les prisons françaises, notamment à Fresnes, où la torture des prisonniers était quotidienne, l'arrivée dans les camps fut un choc immense pour tous les déportés. Une grande partie d'entre eux furent immédiatement exterminés, notamment les femmes, les enfants et les malades. Pour les autres, c'est un enfer absolu qui commence. Dans ce cinquième de 27 épisodes de la série Le Monde Concentrationnaire, Gérard London, Marcel Paul, Lise Ricol et André Verdet nous racontent l'arrivée dans ces camps de travail et d'extermination, des conditions de vie exécrables aux tentatives héroïques de résistance. Une émission de Francis Crémieux, diffusée pour la première fois le 29 avril 1965 sur France Culture.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire. La résistance française dans les camps de concentration allemands. Une émission de Francis Crémieux.
Aujourd'hui, l'arrivée au camp. Entretien avec Gérard London, Marcel Paul, Lise Ricol et André Verdet.
De janvier 1944 à mai 1944, une dizaine de convois de déportés furent dirigés par les Allemands vers les camps de la mort. C'est ainsi d'abord que l'on vida les prisons centrales qui furent dirigées soit vers Mauthausen, soit vers Buchenwald. En vidant la centrale de Blois, les Allemands avaient désigné 50 otages, parmi lesquels était Gérard London, qui, eux, furent d'abord dirigés vers un camp de représailles, celui de Neuilly-et-Brémé, près de Sarrebruck. Ce n'est qu'après un séjour d'un mois dans ce camp qu'ils furent envoyés à Mauthausen. Je crois, Gérard London, que Sarrebruck n'était en aucune façon un camp de travail, mais un camp de mise en condition.
Nous arrivons à Sarrebruck après le voyage de une nuit.
Mais vous partez comment?
Nous partions de Compiègne en autocar, accompagnés par les SS, jusqu'à la gare du Nord. Là, nous étions embarqués dans des wagons spéciaux. Et là, nous étions acheminés jusqu'à Sarrebruck.
Vous avez retrouvé d'autres prisonniers à la gare
du Nord? Il y avait d'autres prisonniers. Certains étaient dans une situation terrible, notamment un postier dont je ne me rappelle pas le nom, qui était devenu fou à Fresnes. Sous les coups et sous les tortures qu'il avait subies là-bas.
Vous étiez dans les wagons à bestiaux?
Non, on était dans des wagons grillés, des wagons avec des grillages aux fenêtres, des wagons spéciaux.
Combien étiez-vous par wagon?
Nous étions 70 environ dans cette wagon.
Ce qui est relativement
enchaîné,
vivable.
C'était relativement vivable, enchaîné. Et jusqu'à Sarrebruck, tout s'est passé bien. À l'arrivée du camp de Neuilly-et-Brémé à Sarrebruck, les choses commençaient à changer. Nous étions reçus par les coups, alignés, dépouillés immédiatement de tout notre bagage, de tout le vêtement d'hiver. Il faisait très froid en février. Et nous étions tondus, c'est-à-dire on nous faisait une sorte de croix gammée avec la tondeuse qu'on nous traçait sur la tête. Paul Colette, particulièrement, était terriblement battu, isolé. Il est resté pendant tout notre séjour à Neuilly-et-Brémé, isolé de nous dans une cellule à part, il dormait par terre, enchaîné jour et nuit. Les chaînes lui avaient pénétré jusqu'aux os. Et là commençait pour nous le premier contact avec la réalité du monde concentrationnaire allemand. La vie peut se résumer à peu près ainsi. Dans des petites baraques, nous étions entassés à deux, trois par lit, c'était des chialis. qui avait une largeur de 70 cm. La journée commençait à 4h du matin. L'appel jusqu'à 7h du matin. Garde à vous, sous un vent glacial, très froid. Roué de coups. Ensuite, à 7h du matin, nous recevions un quart d'eau chaude colorée. Et de 7h à midi, nous devons exercer des mouvements physiques. Grimper, ramper par terre, sauter, courir, continuellement battu par les SS. À midi, nous recevons une demi-litre d'un bouillon chaud, d'un bouillon de choux, et de nouveau, le même régime continue jusqu'à 6h, 7h du soir. Certains détenus, notamment par exemple ce postier qui était devenu fou, étaient mis dans le bassin qui se trouvait au milieu du camp et trempés pendant 3h jusqu'à être couverts par une couche de glace. Il est mort d'ailleurs à la suite de ces choses-là. À 7h du soir, l'exercice physique s'est terminé. Nous étions alignés pendant 3h jusqu'à 10h du soir, 9h30, 10h du soir à peu près, au garde à vous, à l'appel. Pendant cet appel, il y avait tous les jours 3, 4, 5 personnes qui tombaient mortes. Et nous étions très peu dans les camps. C'était un camp qui avait 300, 350 personnes. Après, nous recevions une tartine de pain avec une sorte de confiture de rutabaga et nous devions entrer dans nos blocs. Dans nos blocs, nous attendions le nouveau appel qui se réalisait vers minuit. À minuit, nous pouvions nous coucher. À 4h du matin, c'était la levée. Et ça recommençait.
Pendant trois semaines.
Pendant tout ce temps-là, nous n'avons pas droit de boire, pas droit de nous laver. Pour nous, il est devenu tout de suite clair qu'on veut nous exterminer.
Scientifiquement,
systématiquement, que nous entrons dans un monde où au bout il y a l'extermination. Voulu, préparé, réfléchi. La première chose que nous avons essayé à Sarrebruck, malgré les conditions très difficiles, c'était de préparer l'évasion. C'était un peu une action désespérée. Nous comptions que la plupart d'entre nous resteront, mais nous avons préféré de rester dans les combats et tenter notre chance de rejoindre la résistance en France. Nous avions préparé notre évasion pour jeudi. Vendredi à midi, nous étions sortis des rangs. Notre groupe de 50 qui était venu de Compiègne, mis dans une baraque à part, et on nous annonçait qu'on sera transporté dans un autre camp, sans nous dire dans quel camp. Le soir, nous avons encore subi par un SS qui était ensuite condamné à mort, Trocker de Sarrebruck, un traitement d'adieu. Nous étions dévêtus à nu dans la tempête de neige. Nous étions obligés de, pendant 2 heures, de courir autour du bassin. Et quand nous étions tous trempés de sueur, nous devons nous accroupir, les bras tendus, sans mouvement, rester 3 quarts d'heure dans les vents glaciales. Le lendemain matin, très tôt, nous étions embarqués, enchaînés dans un wagon, et nous étions emportés vers Mauthausen.
Et le 23 mars 1944, Gérard London et ses camarades débarquaient à Mauthausen. En juin 1944, un convoi de femmes, de résistantes, gaullistes, communistes, catholiques, arrivait à Neuilly-Brémé. Et dans ce convoi était Lise Ricolle, l'épouse de Gérard London.
Nous sommes arrivés dans ce camp au milieu de la nuit. Nous avons été accueillis à coups de gourdin, les chiens avaient été lancés contre nous, beaucoup de camarades ont été mordus cette nuit-là, dans cette allée centrale de Sarrebruck. Et nous sommes restés toute la nuit et toute la journée en attendant que l'on nous prenne en charge. Et c'était pour nous la découverte déjà de l'enfer qui nous attendait. Je me rappelle par exemple comment nous assistions avec horreur à tous les exercices qui étaient commandés par les SS aux déportés qui étaient dans une situation de maigreur déjà indescriptible et ces exercices où on les obligeait de ramper par terre, de se lever, de se jeter dans l'eau, de se lever, ensuite par exemple de faire constamment pendant des heures à Cacasson, comme on dit à Saint-Étienne, c'est-à-dire un peu comme la grenouille, toujours autour du bassin central. Ceux qui ne pouvaient pas se relever étaient terriblement battus par les SS. Je me souviens, il y a eu un moment, un prisonnier qui, je pense que ça devait être un soviétique d'après son allure. Il traînait derrière lui sur son dos un de ses camarades. Et alors que la tête de cet homme regardait en arrière, les bras et les pieds étaient tournés en avant. Et nous nous rendions compte que cet homme avait été complètement disloqué. Des scènes de ce genre, c'était pour nous la première connaissance de ce que c'était la vie concentrationnaire.
Est-ce que la peur est entrée en vous ? Est-ce que le découragement est entré dans votre groupe ? Comment cela s'est-il passé ?
Non. Nous avions une haine devant un tel spectacle, mais nous étions à ce moment-là tellement sûrs que les Allemands étaient vaincus, que bientôt ce serait la fin de la guerre, que bientôt nous pourrions punir toutes ces choses-là, que notre morale était vraiment très fort. Nous n'étions pas abattus, nous ne pouvons pas dire que nous avons été abattus. Le troisième ou quatrième jour après notre arrivée, on nous avait amenés dans une grande baraque où nous étions environ 300. Et la chef du camp allemande nous a parlé et nous a dit que maintenant nous devions travailler pour le Grand Reich. Et le travail consistait à découdre entièrement et puis remettre les capotes des Maccabées, des tués allemands. Alors il fallait les défaire, remettre en tas toutes les choses de façon à ce qu'on puisse ensuite les utiliser dans les ateliers pour refaire des costumes neufs pour les soldats allemands. Alors nous avons considéré, nous, que ce travail c'était un travail pour la guerre. Et étant donné notre qualité de résistant, que notre travail n'était pas pour travailler pour l'Allemagne, encore moins pour l'armée allemande. Alors nous avons décidé que nous refuserions de travailler. Et lorsque la chef du camp allemande est arrivée pour nous demander de nous mettre au travail, nous avons dit que non, que nous voulions parler avec le responsable du camp.
Quand vous dites « nous avons dit », ça veut dire qu'il y avait une organisation telle dans votre groupe que des délégués n'étaient désignés.
Oui, nous avons été désignés à trois par l'ensemble de nos camarades pour parler avec le chef SS du camp. J'étais avec Régine Allot et avec Simone Jean. Simone Jean était une résistante qui avait été prise dans la région de Marseille. Elle travaillait avec les réseaux gaullistes. C'était elle qui traduisait ce que j'étais chargée de dire au chef SS du camp. Alors quand il a entendu cela, sa surprise a été tellement grande qu'il en est resté absolument baba et il a éclaté de rire. Comment nous osions pouvoir tenir un tel langage ? Alors il nous dit, vous vous trompez, vous n'êtes pas protégé par le statut des prisonniers de guerre. Je vous rappelle que les accords qui ont été passés entre votre gouvernement et le gouvernement de notre Führer, c'est que nous avons le droit d'agir avec vous selon notre bonne volonté. Personne ne vous protège, nous n'avons des comptes à rendre à personne. Ce travail, vous l'accomplirez, si vous ne l'accomplissez pas, la parole sera aux mitrailleuses. Et il nous dit, vous avez 24 heures de réflexion. Nous avons discuté après son départ et nous avons décidé que, étant donné les conditions, nous ne pouvions pas poursuivre la lutte dans ce sens, que nous allions changer de tactique, mais que nous allions saboter le travail et que nous ferions le minimum de travail et le plus mal fait possible. Et c'est ce que nous avons fait pendant tout le temps que nous étions là-bas, malgré les coups que nous avons pu recevoir, malgré les privations de nourriture qui nous ont été faites. La norme était de défaire 3 uniformes par jour et nous n'avons pas atteint le demi-uniforme par jour. Et encore, c'était de la charpie.
Les faits sur lesquels Lise Ricol vient de témoigner se situent en juin 1944. Le débarquement allié a eu lieu en Normandie. Il a influencé favorablement le moral des détenus, défavorablement le moral de la Schurme SS. Fin avril 1944, un très important convoi de 2000 déportés français est dirigé vers Auschwitz. Mais déjà, on sent que la guerre est perdue pour les nazis. Marcel Paul appartenait à ce convoi qui, finalement, gagna Buchenwald. Nous allons voir dans quelles conditions.
Le débarquement à Auschwitz fut atroce. Il fut atroce peut-être particulièrement pour ceux qui, dans ce convoi, avaient préparé méticuleusement une évasion. Il y avait eu des cas nombreux de folie. Des hommes s'étaient battus pleins de sang, dépenaillés, à la descente des wagons poussés par les SS. Ces malheureux étaient abattus par des tireurs placés en parallèle de la rame de wagon et sous nos yeux, de nos camarades étaient ainsi, dès l'arrivée au camp, abattus. C'était après, sous les coups des SS, la chasse des chiens, la marche vers Birkenau, et nous avons été rassemblés dans deux blocs au camp dit du Canada, à la porte des chambres à gaz. Notre destin apparaissait là absolument scellé. Il était interdit, le soir et la nuit, de sortir des blocs. L'état moral de l'ensemble de notre collectif était tel qu'il a fallu décider nous-mêmes d'un groupe de gardes pour empêcher nos camarades de violer la consigne et de sortir. Ils voulaient sortir parce que des crématoriums accolés aux chambres à gaz montaient ces flammèches que rappellent les images religieuses, les âmes qui montent au ciel. Et ces hommes, dans des hommes qui certainement avaient dans la vie courante des responsabilités, en étaient là à vouloir voir les âmes monter au ciel. Sortir du bloc, c'était être abattu. Nous avions déjà 7 ou 8 camarades qui avaient été abattus de cette façon à la porte du bloc. Et nous avons dû créer ce service intérieur pour garder la porte et empêcher les sorties. La mort rôdait, c'était absolument clair. Nous avions été matriculés dans nos chairs, tatoués. C'était encore l'indicatif que, sans doute, la dernière scène approchait.
Ce convoi de 2000 Français auquel appartenait M. Marcel Paul ne resta pas à Auschwitz. Il fut dirigé vers Buchenwald.
Le départ de ce convoi de France n'était pas passé inaperçu. En raison, sans doute, de sa composition, il lui avait été prêté une grande attention, nous a-t-on dit. Il nous a été affirmé que la radio de Londres, la radio de Moscou, avait mis en garde les autorités hitlériennes sur les responsabilités qui seraient les leurs si les gens de ce convoi étaient exterminés. À d'autres moments, on a dit qu'il y avait eu une intervention du gouvernement de Vichy qui avait été pris de peur en raison, sans doute, je le répète encore, de la composition de ce convoi. Je ne dis pas cela pour moi, mais nous n'étions que peu, ou de communistes ou de FTP. Nous étions seulement une trentaine.
André Verdet, vous qui apparteniez à ce convoi, vous pensez que c'est au lendemain de l'exécution de l'ancien ministre de l'Intérieur de Vichy, Pucheux, à Alger, que les Allemands ont décidé l'extermination de ce convoi et de 2000 de vos camarades. Et vous pensez aussi que c'est sur intervention du gouvernement provisoire d'Alger que les Allemands ont reculé. Quoi qu'il en soit, un changement est intervenu et vous en avez été le témoin.
Au bout de 4 ou 5 jours, changement total de régime. D'un seul coup, stupéfaction, nous avions la double, c'est-à-dire 2 soupes, 2 boules de son, 2 bâtons de margarine, 1 peu de saucisson, très mauvais d'ailleurs, et puis de la marmelade. Que se passe-t-il? Le commandant du camp s'amène, il était bien briqué, reluisé, et dit « Camarades, vous allez quitter ce Scheiß-Commando, c'est-à-dire ce commando de merde, pour partir vers des cieux plus cléments. Oui. » Vous allez partir vers Buchenwald. Et là, vous travaillerez. Vous recevrez à Buchenwald un accueil fraternel de la part de nos amis, les SS de Buchenwald. Vous aurez la vie belle. Personnellement, j'en suis content. Parce que vous savez, ici, eh ben, c'est pas drôle. J'ai veillé personnellement à ce que vous ayez le long de la route des vituailles. Et puis, au lieu d'être à 120, 130 ou 140 par wagon, comme lorsque vous êtes venu de Compiègne, vous ne serez plus que 40. Mais ne cherchez pas à vous évader. Nous avions appris, sur les lieux mêmes, les formidables comédies jouées par les SS avant d'assassiner certains convois. Et par exemple, des convois d'enfants, où on distribuait la veille aux enfants du lait et des brioches. On distribuait des jouets aux enfants. Et ces mêmes enfants, le lendemain, n'est-ce pas, on les rassemblait, on les faisait sortir du camp, et le train allant en reculons rentrer dans le camp de Birkenau, dans le camp des crématoires et des chambres à gaz, et tout le convoi des enfants était gazé et brûlé. Alors nous disions, peut-être ça va nous arriver à nous. Alors le train, n'est-ce pas, commence à sortir, je me souviens très bien, lentement, du camp. Et nous disions tous, est-ce qu'il va reculer de nouveau sur une autre voie et rentrer dans le camp de Birkenau? Et il y a eu un arrêt à la sortie du camp, pendant un quart d'heure. Et véritablement, là, c'était des heures de suspense terrible pour nous, des heures d'angoisse, et nous n'osions rien dire. Il y avait vraiment un silence de mort qui planait sur nous tous. Est-ce que le train va faire marche arrière? Tout à coup, le train repart, mais c'était pas en marche arrière. C'était véritablement vers Buchenwald.
C'était la résistance française dans les camps de concentration allemands. Une émission de Francis Crémieux. Assistant, Gilbert-Maurice Duprez.
C'était l'arrivée au camp, le cinquième de 27 épisodes de la série Le Monde Concentrationnaire de Francis Crémieux, avec Gérard London, Marcel Paul, Lise Ricol et André Verdet. Première diffusion le 29 avril 1965 sur France Culture. À suivre.